Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois d'avril. Une heure en votre compagnie pour vous parler de l'évolution des droits humains, de nos informations, de nos combats par rapport aux droits humains, etc. Et de nos actions, etc., etc. Mais ça, je suppose que vous le savez depuis le temps qu'on est à l'antenne. Et pour faire l'émission avec moi ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Bonsoir.
Donc voilà, donc surtout ne quittez pas l'antenne avant 20h parce qu'on va vous parler de plein de choses, de plein de sujets très variés. Et on va commencer par, on avait je crois très très vaguement parlé à l'émission précédente.
Bah, c'était le jour même la parution,
voilà, mais
on
n'a
pas pu en parler.
Voilà, on avait dit que le rapport était paru, mais c'était trop juste pour qu'on puisse vous en parler. C'est le rapport annuel d'Amnesty International, 105, comme tous les ans, 156 pays. Dont l'état et l'évolution par rapport aux droits humains est répertorié, nomenclaturé, enquêté, publié par Amnesty International, dont la France, bien sûr, c'est Edith qui va vous en parler tout à l'heure. Moi, je vais vous faire une petite présentation assez rapide, on va essayer, et plus générale, effectivement, de ce rapport, pour ceux qui ne le connaissent pas. Le rapport, il existe depuis des dizaines d'années au niveau d'Amnesty International, il est publié tous les ans. Et ça sert de référence, y compris pour les médias, enfin, etc. Ça sert de référence pour parler de l'état du monde en termes de droits humains. Voilà. Donc, je vous passe pour commencer la présentation générale du rapport qui est faite par notre secrétaire international qui s'appelle Agnès Calamar. Et on revient vers vous juste après.
Amnesty International publie aujourd'hui son rapport annuel sur les droits humains dans le monde. L'année 2022 est marquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la politique de deux poids, deux mesures. La réponse robuste à cette agression contraste fortement avec l'incapacité de la communauté internationale à appliquer les droits humains de manière cohérente partout et pour tous. La réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie donne quelques preuves de ce qui peut être fait quand il y a une volonté politique. Condamnation mondiale, de multiples enquêtes sur les multiples crimes de guerre, des frontières ouvertes aux réfugiés ukrainiens. Cette réponse pourrait être un modèle pour la manière dont nous traitons toutes les violations massives des droits humains où qu'elles se produisent. Mais en 2022, nous n'avons pas vu ce modèle. La réponse robuste de l'Occident à l'invasion de l'Ukraine par la Russie contraste fortement avec l'absence d'actions significatives sur les violations commises par leurs alliés, notamment l'Israël, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Ces deux poids, deux mesures n'étaient pas l'apanage des pays occidentaux. La Chine elle-même a utilisé des tactiques musclées pour réprimer l'action internationale contre les crimes contre l'humanité qu'elle a commis. Les institutions internationales n'ont pas réagi de manière adéquate aux conflits qui ont tué des milliers de personnes en Éthiopie, au Myanmar, au Yémen. Quant au niveau national, de nombreux États ont violé la liberté de manifester alors que les attaques contre les droits des femmes se sont multipliées des États-Unis à l'Iran en passant par l'Afghanistan. Dans un monde aussi instable, les États ne devraient pas choisir les violations des droits humains dont ils se soucient et celles qu'ils ignorent selon que leurs intérêts soient en jeu ou non. La politique de deux poids, deux mesures sape tout le tissu des droits humains. Alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme fête ses 75 ans, tous les États doivent s'engager en faveur d'un ordre fondé sur des règles qui s'imposent partout et à tous.
Voilà, donc c'était l'intervention d'Agnès Calamar pour présenter ce rapport mondial d'Amnesty International. Donc je vais développer quelques points qu'elle a assez rapidement, mais qu'elle a évoqué dans cette petite présentation générale. Donc voilà ce qui est dit hein, sur le communiqué d'Amnesty sur le site d'Amnesty.fr, le site d'Amnesty France, par rapport à cette présentation et par rapport à ce rapport. Après 10 ans d'érosion des droits humains, 2022 a marqué un tournant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce conflit, d'une ampleur inédite, a révélé les défaillances des institutions internationales inaptes à prévenir un tel conflit, mais aussi à répondre aux autres crises mondiales et défis majeurs qui se posent à l'échelle planétaire. Face à ce sombre constat, la question se pose : quel monde voulons-nous pour demain ? Il y a 75 ans, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme au Palais de Chaillot à Paris. Pour la première fois, le monde se dotait d'un texte de portée universelle, énonçant en 30 articles les droits humains fondamentaux. 75 ans plus tard, en 2022, notre rapport annuel dresse une fois de plus un tableau inquiétant de l'état du monde. Le système multilatéral imaginé au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour que le monde vive en paix est-il en train de sombrer ? Et comment en est-on arrivé là ? L'invasion de grande ampleur de l'Ukraine par la Russie a engendré l'une des pires crises de l'histoire contemporaine récente. Le 24 février 2022, un chef d'État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU déclenche un conflit en Europe en commettant un crime d'agression, des crimes de guerre et peut-être contre l'humanité. Ce conflit a entraîné le déplacement de millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes fuyant les zones de guerre, une insécurité énergétique et alimentaire mondiale et a réveillé le spectre effrayant de la guerre nucléaire. Un conflit d'une ampleur inouïe que le système international n'a réussi ni à prévenir, ni à enrayer. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un exemple glaçant de ce qui peut se produire quand les États pensent pouvoir faire fi du droit international et violer les droits humains en toute impunité. Un peu plus loin, effectivement, dans ce que nous disait Agnès Calamar, le premier reproche qui est fait par Amnesty au niveau de l'état du monde, entre guillemets, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures selon les pays dont on parle, enfin selon les pays auxquels on se réfère. Donc ce deux poids, deux mesures, il se traduit aussi par le conflit en Ukraine qui ne doit pas invisibiliser les victimes de toutes les autres barbaries perpétrés à travers le monde. Alors que l'agression russe a provoqué des réactions fortes de nombreux États, d'autres graves violations commises ailleurs semblent tolérées par la communauté internationale qui continue à fermer les yeux. En 2022, 20 États ont commis des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Donc il n'y a pas absolument que la Russie qui l'a fait. Un peu plus loin, effectivement, parce que je ne vais pas tout vous lire, vous avez tout le texte hein, en première page sur le site amnesty.fr, mais c'est un petit résumé que je vous fais. Un peu plus loin, il est dit effectivement dans ce rapport, par rapport au climat, que c'est un péril grandissant pour les droits humains. Autre échec collectif, donc de la communauté internationale, autre aveu flagrant de la faiblesse des systèmes multilatéraux actuels, la lutte contre le réchauffement climatique. Inondations, épisodes de sécheresse, vagues de chaleur, incendies. En 2022, le coût de la crise climatique pour les droits humains a été catastrophique. Les phénomènes météorologiques extrêmes, accentués par le réchauffement rapide de la planète, ont provoqué la famine et la maladie dans plusieurs pays d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne, tels que le Nigeria et le Pakistan, où les inondations ont eu des effets catastrophiques sur la vie et les moyens de subsistance de la population et ont provoqué des épidémies de maladies à transmission hydrique, donc par l'eau, et qui ont fait des centaines de morts. Bon, un peu plus loin, cette présentation du rapport mondial dit que aussi on assiste, au niveau général dans l'ensemble des pays de la planète, à une répression brutale de la dissidence et de la liberté d'expression. Alors, il est dit effectivement de cette façon-là, des millions d'hommes, suite à cette répression, des millions d'hommes et de femmes sont descendus dans la rue à travers le monde pour faire valoir principalement leurs droits. Face à leurs revendications légitimes, les États ont trop souvent répondu par la répression et la violence. Et là, il y a quelques chiffres. 29 États ont adopté de nouvelles lois restreignant le droit de manifester. 85 États ont eu recours illégalement à la force contre les manifestants et des manifestantes pacifiques. 26 États ont restreint l'usage d'Internet pour empêcher des manifestations. 14 États utilisent la surveillance biométrique pour cibler les manifestants et les manifestantes. On vous en a déjà parlé parce que la France est concernée par cette surveillance biométrique. Et dans 33 États, des homicides illégaux de manifestants et manifestantes ont été commis par les forces de sécurité. Bon, voilà un petit tableau effectivement qui n'est pas très enthousiasmant. Donc effectivement, Amnesty continue en disant qu'aujourd'hui, le droit de manifester est menacé donc dans le monde entier. Et nous alertons sur le signal fort que cette dégradation envoie, car à travers ce droit fondamental, ce sont tous les autres droits qui sont en jeu. Alors après, effectivement, Amnesty, dans la présentation générale de ce rapport et dans ce qui est dit dans sa présentation et dans son résumé, c'est d'essayer de reconstruire ensemble le monde de demain. En 2022, nous avons fait face à l'échec des institutions internationales, au recul de la protection de nos droits par les États et à l'érosion de nos libertés et de notre droit de manifester. Donc. Mais le bilan de l'année 2022 est-il pour autant à jeter ? Certainement pas. Partout, des avancées concrètes témoignent que le combat pour les droits humains porte ses fruits et insuffle de l'espoir. Partout, des citoyens et des citoyennes s'élèvent pour défendre leurs droits ou par soif de démocratie. Jamais nous n'avons vu un tel mouvement de contestation et de défense des droits des femmes en Iran, dont le slogan « Femme, vie, liberté » a été repris aux quatre coins du monde. Jamais nous n'avons autant parlé et reconnu l'existence de crimes de guerre et autant appelé à la justice. Sans doute portés par cette vague, les États membres de l'ONU ont adopté lors de leur Assemblée générale une résolution destinée à contrer le droit de veto détenu par les membres du Conseil de sécurité, qui était une cause majeure de la faiblesse de l'institution. Jamais nous n'avons assisté à un tel élan des pays européens pour accueillir des personnes réfugiées. Ça, c'est par rapport aux Ukrainiens, principalement. Les nations européennes ont démontré qu'elles savaient ce qu'elles devaient faire pour répondre aux demandes de protection internationale et surtout qu'elles pouvaient le faire. Mais comme disait effectivement Agnès dans sa présentation générale, parce que je vais m'arrêter là, effectivement, c'est qu'en fait, il y a deux poids, deux mesures. Quand il s'agit d'Ukraine, il y a des mesures très intéressantes et très positives qui sont prises malgré tout pour protéger la population, mais c'est loin d'être le cas partout. Donc voilà. Mais malgré ce constat un petit peu pessimiste, il faut noter effectivement que bon, il y a d'autres points positifs sur les droits des femmes aussi qui sont en régression, mais dans certains pays c'est le contraire, sur l'abolition de la peine de mort qui a plutôt progressé aussi en 2022. Donc il y a quand même des points positifs, mais pour autant le combat est loin d'être gagné, c'est sûr. Voilà, et je crois qu'il y avait Edith qui voulait décliner un petit peu tout ça, mais plus vu de la France.
Oui, c'est quand même on ne va pas dire que c'est une nouveauté, mais c'est vrai que, comme je suis déjà un tout petit peu âgée, quand j'ai commencé à être militante Amnesty, quand on regardait le rapport annuel d'Amnesty, France, c'était, il n'y avait pas long, hein, c'était quelques lignes, il y avait souvent les conditions de vie en prison, où c'était pas terrible, enfin les choses comme ça. Et là, cette année, il y a beaucoup de manquements et notre pays est loin d'être exemplaire en matière de respect des droits humains. Donc on va retrouver un peu ce que Didier a parlé aussi au niveau mondial, mais je pense que c'est important de s'arrêter sur la France. Donc Amnesty, ça a été fait par points. Donc je vais vous parler des points, puis après je pense après peut-être... une petite pause musicale, j'essaierai de vous amener avec des exemples pour qu'on se rende bien compte que c'est notre actualité à nous. Donc, Amnesty, les manquements de la France en 2022. Amnesty dit « L'opacité des transferts d'armes de la France face au risque qu'elle puisse contribuer à la commission de violations graves du droit international humanitaire. » La surpopulation dans les prisons pour lesquelles la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en 2020. Des traitements cruels, inhumains et dégradants réservés aux enfants qui restent retenus dans les camps du nord-est de la Syrie et que la France n'a toujours pas rapatriés, ce qui fait l'objet là aussi d'une condamnation par le Comité des droits de l'enfant de l'ONU le 24 février 2022. L'impunité suite au recours à la force disproportionnée des forces de l'ordre dans la gestion des manifestations ou des rassemblements ayant entraîné des blessures graves, amputations, éborgnages. On peut penser à tout ce qui était gilets jaunes et actuellement aussi Sainte-Soline dont on avait parlé à la dernière émission. Et l'exemple qui est donné, c'est aussi quelqu'un pour qui on a demandé des signatures au moment des 10 jours pour signer. C'est Zineb Redouane, donc à Marseille. La famille de Zineb Redouane, décédée à la suite d'un tir de grenade lacrymogène en décembre 2018, n'a toujours pas obtenu justice 4 ans après. Au-delà de graves manquements de la France à ses obligations en matière de respect et de promotion des droits humains, ce qui a marqué l'année 2022 est le renforcement des discours stigmatisants contre les personnes exilées et certaines minorités, notamment les personnes musulmanes. Ces discours stigmatisants, de plus en plus décomplexés, voire racistes, se répandent dans certains médias, sur les réseaux sociaux, et s'invitent chez les responsables politiques jusqu'au plus haut sommet de l'État. Des dérives dans ces discours qui se traduisent aussi dans les pratiques. Malgré les rapports et les alertes sur ces atteintes aux droits humains, la stigmatisation et la discrimination des personnes exilées et des minorités en France a continué à s'enraciner toujours plus dans les discours et dans les actes pendant l'année 2022. Voilà. Après, je vais vous donner des exemples, je pense. Une petite pause musicale.
Et on se retrouve juste
et j'arrive.
D'après.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. D'égalité. Et comme des cons les a crus, démocratie fait-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su, que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix et de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer. Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.
retour sur l'antenne de Principes Actifs, donc Amnesty International, pour son émission bimensuelle sur la défense et la promotion des droits humains. Et puisqu'on parle de la parution du rapport annuel d'Amnesty, dont Edith va continuer à vous parler, on a repassé le morceau, vous l'avez déjà passé, mais on a repassé le morceau de HK et des saltimbanques. On lâche rien, parce que j'ai pensé que le titre était très adapté par rapport au sujet du jour. Voilà, donc Edith, je te rends la parole.
Eh bien voilà, donc on continue d'après ce rapide résumé d'Amnesty. Donc là, je vais vous parler un peu de quelques exemples, je trouve vraiment bien, bien parlants et qu'on a tous entendu dans l'actualité il n'y a pas très longtemps. Donc, discours stigmatisant jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc, face à la situation de personnes qui ont dû fuir la guerre ou les persécutions dans leur pays, le double discours des hauts responsables politiques français est flagrant. Ils s'expriment différemment, Didier en a parlé aussi dans le rapport, selon que ces personnes viennent d'Ukraine ou d'Afghanistan. Août 2021, lorsqu'une partie de la population afghane a été contrainte de quitter le pays, Emmanuel Macron avait alerté sur le besoin d'une initiative européenne pour anticiper, protéger contre des flux migratoires irréguliers importants qui nourrissent les trafics de toute nature lors d'un discours télévisé ce 16 août 2021. Emmanuel Macron n'a pas prononcé une seule fois les termes « asile » ou « réfugié ». Utiliser des mots qui déshumanisent tels que « flot », vagues migratoires, c'est faire percevoir ces personnes comme une menace. C'est faux, c'est injuste, c'est insultant. C'est ce que nous dit Jean-Claude Samouyé, le président d'Amnesty International France. Moins d'un an après, la population ukrainienne était à son tour contrainte à l'exil. Cette fois, le président a insisté sur l'accueil de plusieurs milliers de réfugiés venant d'Ukraine, en France et en Europe, en remerciant nos villes et nos villages qui ont commencé à se mobiliser, ainsi que les associations qui œuvrent pour accueillir dans des meilleures conditions. On retrouve aussi ce double discours chez le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'un côté, il évoque le besoin de sécurité, de l'autre, il met en avant la tradition d'accueil de la France. 21 août 21, toujours la date par rapport à l'Afghanistan, il tweetait « Avant d'arriver en France, les réfugiés afghans sont soumis à des contrôles de sécurité approfondis. Merci à l'ensemble des agents mobilisés sur le terrain. Notre vigilance est totale. » 10 mars 22, Ukraine. 7500 personnes qui fuient l'Ukraine sont déjà arrivées en France. Fidèle à sa tradition d'accueil, la France se tient prête et anticipe différents scénarios. Alors en octobre 2022, c'est pratiquement 120 000 personnes réfugiées d'Ukraine qui se trouvent en France, selon le haut-commissaire des Nations Unies. Les Ukrainiens et Ukrainiennes ont eu l'accès de façon accélérée et systématique au statut de réfugié dans le cadre de la protection temporaire. Un dispositif européen qui n'a été accordé ni à la population afghane, ni à la population syrienne, démontrant un deux poids, deux mesures inacceptable. Bien entendu, nous saluons les dispositifs mis en place pour accueillir les personnes exilées venues d'Ukraine. Ils nous prouvent une chose, accueillir dignement ces personnes est possible, mais dépendant d'une vraie volonté politique. Cela devrait être une réalité, quel que soit le passeport des personnes exilées. Voilà, je trouve que les exemples sont quand même très parlants et c'est des choses qu'on a pu dire aussi plusieurs fois pendant l'année. Quoi. Donc je vous fais rapidement le reste. Amnesty reproche renvoi illégaux des personnes exilées à nos frontières. Un exemple, le 18 janvier 2023, une personne est interpellée dans le train de 5h58 à la gare de Menton. Garavan, il s'appelle. Il a expliqué qu'il était afghan et il dit « demander l'asile ». Ce à quoi les policiers ont répondu « fini la France, il n'y a plus de place, il n'y a plus de travail » et il a été renvoyé en Italie. Plus globalement, les renvois sommaires, illégaux, forcés et parfois violents de personnes réfugiées et migrantes se multiplient aux frontières de la France, mais également dans d'autres pays d'Europe comme la Grèce, la Pologne, la Lituanie ou la Lettonie. Cette pratique illégale parce qu'elle prive les personnes de demander l'asile en exposant les spécificités de leur situation individuelle. Cela empêche notamment de déterminer si elles risquent d'être soumises à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Projet de loi immigration, hein, Claire Lys, tu nous écoutes, tu en as beaucoup parlé. Bon, il est reporté, c'est ce qu'Emmanuel Macron nous a signalé quand il a parlé des retraites. Mais ce projet, il est vraiment dangereux. On ne sait pas si des morceaux de ce projet ne vont pas passer dans d'autres lois ou avec d'autres appellations. Donc, ce qui est vraiment la demande, c'est une procédure, probablement d'amnistie et de toutes les personnes qui défendent ces droits humains, procédure d'asile équitable et efficace, la création de voies sûres et légales pour permettre aux personnes qui souhaitent demander l'asile en France de le faire sans avoir à passer par des routes dangereuses et un accès sûr au territoire sans pratique illégale aux frontières telles que des refoulements dont je viens de vous parler. Discrimination envers les minorités et notamment les personnes musulmanes. Alors là, ça découle de la loi confortant sur le respect des principes de la République en 2021, dont on a parlé, ceux qui suivent déjà il y a un moment. Donc c'est une loi qui n'est pas claire et qui fait que l'application de ces lois soulève toujours des questions préoccupantes au niveau du droit international. Et donc la France a été pointée par plusieurs organisations pour la faire changer, mais ça donne des concepts vagues et mal définis comme islam politique, islam radical, et qui a des effets discriminatoires indirects sur les personnes musulmanes ou perçues comme telles en France. Contrôle aux faciès. Alors là, c'est quelque chose qu'on dénonce déjà pour plusieurs années et ça ne s'arrange pas. La France a aussi les instances internationales ont demandé à la France de changer et d'arrêter d'utiliser le faciès des gens pour que la police...
L'apparence physique pour contrôler,
pour
contrôler l'identité.
Il y a eu des enquêtes qui ont démontré qu'il y a eu beaucoup plus si on est noir, si on est arabe, si on habite dans les quartiers, si on habite en ville, on sait très bien qu'on va être beaucoup plus repéré par la police et contrôlé de façon complètement...
Arbitraire.
C'est ça. Voilà, j'essaie de... Donc, parce que c'est assez terrible de se dire que je suis en train de parler de la France, là, tout de suite, et que je déroule plein d'articles, plein d'arguments, et je vous ne parle pas aussi des instances ONU qui ont mis la France en demeure de changer, quoi.
Tout à fait.
Le petit point que je voudrais juste dire, c'est que je trouve que cette analyse, elle est bonne, c'est qu'on arrive à un racisme systémique. Et un racisme devient systémique quand les institutions, les lois et les politiques publiques entretiennent le système discriminatoire qui privilégie certains groupes et en opprime d'autres selon les apparences physiques. Voilà, donc je pourrais peut-être faire un petit point sur la France à une autre émission. Je pense que je suis un peu longue.
Non, mais... Et maintenant, on va passer à Didier.
Comme toutes les fois, on est pris par le chronomètre et le temps qui passe.
Donc, cet article est sur le site d'Amnesty. Oui. Allez voir et lisez-le en entier.
Mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, et ça va être très court, c'est qu'effectivement, on a constaté aussi dans nos émissions de radio qu'on parlait de plus en plus souvent des atteintes aux droits humains en France par rapport à il y a quelques années. C'est très clair, hein, de toute façon. Nous aussi, chez nous, sur une pente glissante tout à fait regrettable. Voilà.
Eh oui, maintenant Didier,
et donc il y a Mina qui me propose de bousculer le conducteur qu'on avait établi avant l'émission.
Oui, mais il ne faut pas le dire.
Mais
pour la troisième partie. Il m'a encore bouffé mon temps,
le GIEC, Mina, la dernière fois, il n'a pas pu en parler.
Eh bien justement, allons.
Mais ça ne va pas être très long de toute façon.
On perd 30 secondes là, les gars. Allez.
Donc, très récemment, il y a quelques semaines, a été publié le nouveau rapport du GIEC qui est très alarmant sur la situation d'évolution du climat et ses conséquences pour Amnesty en termes de remise en cause des droits fondamentaux. Et donc, Amnesty a publié un communiqué. Je vais simplement vous en lire quelques extraits par rapport à cette publication. Je vous renvoie quand même au résumé du rapport du GIEC qui existe sur Internet et qui est effectivement qui donne un petit peu le bourdon si on lit tout au pied de la lettre. Donc l'évaluation, voilà ce que dit Amnesty, l'évaluation du GIEC, qui s'appuie sur des fondements scientifiques, montre clairement que faute de transformation profonde et immédiate dans notre démarche de lutte contre le changement climatique, nous allons dépasser, et de loin, la limite fixée à 1,5 degré pour le réchauffement des températures et les conséquences seront catastrophiques dans le monde entier. Si les actions concernées ne sont pas menées immédiatement, il deviendra impossible de limiter cette augmentation mondiale à 1,5 degré. Nous devons emprunter un autre chemin que la voie que nous suivons actuellement, car c'est vers une augmentation de près de 3 degrés que nous nous dirigeons. Les effets de l'inaction apparaissent déjà clairement sous la forme d'événements climatiques plus extrêmes qui affectent souvent les plus durement les populations ayant le moins contribué à la consommation massive des combustibles fossiles à l'origine de cette crise. La sévérité accrue des sécheresses, l'ampleur catastrophique des inondations, l'intensification des orages et l'élévation du niveau de la mer tuent des milliers de personnes chaque année et forcent de nombreuses autres personnes à quitter leur domicile. Cette année, des records de chaleur ont déjà été atteints en Amérique du Sud, donc c'était pendant l'hiver, l'été dans le continent austral, où des feux de forêt font actuellement rage. Et le gouvernement indien a organisé une réunion relative à la gestion des catastrophes après le mois de février le plus chaud enregistré depuis 1901. Le rapport du GIEC estime que jusqu'à 3,5 milliards de personnes dans le monde sont en situation de vulnérabilité face au climat. Il ne peut plus y avoir aucune excuse. Les États doivent véritablement consulter les groupes touchés et adopter de toute urgence des politiques et des changements législatifs visant une sortie rapide des combustibles fossiles, mais aussi mener à bien une transformation rapide et juste de l'utilisation de l'énergie qui soit respectueuse des droits humains et protège des populations qui dépendent actuellement d'économies fondées sur les combustibles fossiles, ainsi que les peuples autochtones, entre autres. Amnesty International soutient la multiplication des appels en faveur d'un traité juridiquement contraignant de non-prolifération de combustibles fossiles et exhorte les gouvernements à accepter par ailleurs d'éliminer rapidement l'utilisation et la production de tous les combustibles fossiles lors des négociations de la Conférence des Nations Unies sur le climat, la future COP28. Et pour finir, un changement réel est possible. Des percées majeures ont été réalisées sur le terrain des énergies renouvelables et sont susceptibles de réduire très fortement la dépendance mondiale aux combustibles fossiles. Reconnaître qu'une efficacité accrue en matière énergétique et que le développement des transports publics sont cruciaux nous engagera sur une voie plus durable. Le potentiel en termes d'investissement est disponible afin de construire des systèmes énergétiques entièrement basés sur des énergies renouvelables d'ici à 2050. Voilà. Donc, effectivement, nous, on ne peut qu'appuyer, même si on n'est pas association écologiste au départ, que ce genre de déclaration, sachant que si on reprend, par exemple, l'exemple des 3,5 milliards de populations qui sont déjà dans une situation extrêmement vulnérable, comme le dit Amnesty, il est évident que si ces personnes-là étaient amenées de force à quitter leur pays parce qu'ils ne pourraient pas y rester, ce serait une crise migratoire au niveau de la planète absolument ingérable. Voilà. Donc, je crois que Mina voulait vous parler de, je crois, tout autre chose, mais elle va vous le dire elle-même.
Tout à fait, mais comme je n'arrête pas de tout changer, j'ai envie de tout bouger, les marges, pour bien finir après la deuxième pause musicale. J'enchaîne sur l'intelligence artificielle au service de qui ? Et c'est dans la chronique dernière du mois d'avril. Alors, je vous lis le petit article de PH. Qui est responsable si une intelligence artificielle, IA, a décidé seule de la cible et du moment de tirer et de tuer dans un conflit. Qui doit rendre des comptes si une intelligence artificielle, en toute innocence, puisqu'elle n'a pas de conscience, reproduit les biais racistes, sexistes ou autres des données dont elle est nourrie ? On peut poser la question sous toutes ses formes. Elle souligne l'enjeu éthique de cette technologie dont le grand public a pris conscience avec le succès fulgurant de ChatGPT, l'outil conversationnel développé par une société américaine. Le débat n'est pas nouveau. Il a accompagné l'essor des drones de combat. On l'a retrouvé avec la campagne contre les robots tueurs. Et il est temps d'ouvrir ce débat à propos de l'intelligence artificielle dont on nous promet qu'elle va entrer dans nos vies pour un avenir radieux. Mais s'il est une leçon que nous avons apprise des dernières décennies avec la révolution numérique, c'est que les technologies sont duales. Elles peuvent sauver des vies dans le domaine médical, par exemple, et elles peuvent favoriser les scénarios les plus sinistres. En effectuant des recherches sur Internet, en Chine, je suis tombée sur des documents qui montraient comment l'installation du télégraphe en Chine à la fin du XIXe siècle avait précipité la chute de l'Empire Qing et l'avènement de la République. La circulation de l'information avait joué un rôle clé dans cette transformation historique. Beaucoup ont cru qu'Internet allait jouer le même rôle avec le système totalitaire chinois lorsque Pékin ouvrit les réseaux au grand public à la fin des années 1990. En deux décennies, il s'est passé exactement l'inverse. La technologie mise au service de la surveillance a renforcé le système totalitaire face aux aspirations à la liberté. Liu Xiaobo, le prix Nobel de la paix chinois mort en détention, a pu écrire que Internet était un don de Dieu pour les partisans de la liberté, mais ce sont aujourd'hui ces bourreaux qui remercient le ciel, ou en tout cas les ingénieurs, d'avoir maîtrisé la technologie pour mieux verrouiller la société. C'est donc, dès aujourd'hui, avant même que l'intelligence artificielle ne soit réellement au cœur de nos vies, que nous devons nous assurer que ce sera au service des humains et pas pour leur imposer de nouvelles contraintes, voire les réduire en esclavage, comme le prédit l'historien Yuval Noah Harari. La société civile doit s'emparer de cet enjeu vital. Oui, dites, je sens que tu veux rebondir sur ce sujet, je le sens.
Oui, je vais juste donner les initiales, c'est Pierre. C'est Pierre Aski. Hein, qui fait une chronique géopolitique sur voilà, parce que comme tu avais sur la chronique là depuis quelques mois, donc
merci beaucoup. Et voilà. Du coup, la vidéosurveillance,
alors moi c'est juste un petit point, parce qu'on avait dit avec Mina on allait se mettre sur tout ce qui était intelligence artificielle, donc la dernière fois j'avais parlé aussi de la surveillance pour les Jeux Olympiques, et là juste une, on va dire quoi, une moitié de bonne nouvelle. Cybersurveillance, donc les logiciels espions, les États s'engagent à contrer la prolifération des logiciels espions. Alors ça a commencé par Joe Biden qui, le 27 mars 2023, a signé un décret limitant l'achat et l'utilisation de logiciels espions, privés, pour toutes les branches et agences gouvernementales américaines. Et une semaine après la décision du gouvernement américain, plusieurs États ont signé une déclaration commune pour contrer la prolifération et les mauvais usages des logiciels espions commerciaux. En plus des États-Unis, donc ce texte a été signé par la France, l'Australie, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse, la Suède et le Royaume-Uni. Donc c'est une avancée prometteuse et sans précédent dans la lutte contre le secteur opaque et hors de contrôle de la cybersurveillance. Donc, c'est un article de Katia, qui est représentante Amnesty de...
Katia Roux,
voilà, ouais. Je manquais. Moi, tu avais les initiales, moi, il manquait le nom.
Non, c'est Roux, son nom de famille.
Voilà, mais les demandes d'Amnesty ne sont pas terminées, car ce qu'on voudrait, nous, c'est carrément un moratoire sur l'utilisation, la vente et le transfert de ces technologies, et on va continuer à se battre.
J'ouvre une petite parenthèse qui n'a rien à voir et qui n'était pas prévue, mais puisque tu viens de parler de Joe Biden, le président des États-Unis, on lui rappelle s'il nous écoute qu'il doit abandonner toutes les poursuites contre Julian Assange, signer la pétition sur le site d'Amnesty. Julian Assange qui croupit toujours au fond d'une prison à Londres dans des conditions épouvantables et qui a été arrêté alors qu'il n'a fait que son travail de journaliste. Ça, il faut aussi le rappeler, effectivement. On doit effectivement continuer à soutenir Julian Assange, je vais arriver à le dire, et surtout aller signer la pétition. Merci, Monsieur Biden. Voilà.
Allez, merci Didier.
Deuxième pause musicale.
Pause musicale.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude. ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, pour la suite et la fin de son émission pour la défense et la promotion des droits humains. Et on va passer, je crois, à une rubrique culturelle, si mon petit doigt m'a dit ce qui allait se passer de façon correcte.
Oui, je suis toujours dans la chronique, et il y a un portrait d'un dessinateur turc, Ersin Karavulut, qui est inquiet mais pas résigné. À 41 ans, le caricaturiste turc retrace le début de son parcours, semé d'embûches, dans une autobiographie dessinée. Donc peut-être que vous connaissez, c'est Journal inquiet d'Istanbul. Donc le tome 1 est sorti chez Dargo en 2022 et c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà ce que dit cet article. Un monde repeint en gris, dans lequel la moindre trace de couleur est traquée. Une mystérieuse épidémie uniformisant le visage des malades, un futur où la gravité terrestre est devenue le privilège des nantis, seuls à s'aventurer dehors sans risquer de s'envoler. Dans les planches grinçantes d'Ersin Karabulut, l'individu tente souvent de s'extraire d'un carcan étouffant, un thème que l'on retrouve dans le dernier album du dessinateur. Il y raconte sa jeunesse dans une Turquie marquée par l'embrigadement, l'essor du conservatisme et l'ascension d'un certain Recep Tayyip Erdogan. Le premier tome sur fond de dérive autoritaire toujours plus prononcée de son pays. Je veux raconter ce que nous, les caricaturistes, avons fait, au moins, ou du moins tenté, face à cette lame de fond, explique l'auteur. Enfant, Ersin passe ses soirées à inventer des histoires de super-héros et rêve déjà de faire de la bande dessinée son métier. Mais plus que tout, il souhaite rassurer ses parents qui le voient ingénieur. Mon personnage est écartelé, confus, tout comme la Turquie est divisée, incertaine. Sous un trait associant réalisme et caricature, l'artiste entremêle habilement angoisse intime et collective. « Surtout, ne te mêle pas de politique, hein !» l'exhorte régulièrement son père, traumatisé par la violence politico-mafieuse des années 1970. L'album ébauche ainsi une généalogie de la peur pour mieux l'exorciser. Mais Journal inquiet d'Istanbul, c'est aussi l'histoire d'un rêve accompli. Publié pour la première fois à 16 ans, Ersin Karabulut ne tarde pas à devenir l'un des dessinateurs des plus en vue de sa génération. Le public est conquis par ses courtes planches autobiographiques, lucides et pleines d'autodérision, qui paraissent à partir de 2002 dans l'hebdomadaire turc Pengen. Les personnages de BD m'ont montré la voie, alors j'essaie à mon tour d'aider mes lecteurs à grandir, se comprendre, changer. Avec quelques camarades, ils fondent en 2007 sa propre revue, Huiküzüz, qui connaîtra ses heures de gloire. Mais elle finira par mettre la clé sous la porte en janvier 2023, quelques années après Pengen et la légendaire Girgir. Les ventes étaient en baisse depuis longtemps, soupire le dessinateur, qui pointe un manque d'adaptation numérique, mais aussi la censure et le vent de conservatisme qui souffle depuis des décennies, les gens ont fini par perdre leur intérêt pour la satire. Pour la Turquie, c'est la fin d'une ère. Dans les années 1970-1980, les revues humoristiques tirées à des centaines de milliers d'exemplaires. La culture de la caricature était très forte et la presse lui accordait une place essentielle, rappelle le représentant de Reporters sans frontières à Istanbul, Erol Önderoğlu. Le recul des ventes va de pair avec la reprise en main des médias. Dès son arrivée au pouvoir en 2002, Erdogan s'en prend aux caricaturistes et multiplie les procès qui, s'il ne les gagne pas toujours, entretiennent un climat d'intimidation. Surtout, le pouvoir a instrumentalisé de nombreux tabous, notamment autour de la religion, et encouragé la pression sociale pour réduire les dessinateurs au silence, relève Erol Önderoğlu. Malgré un potentiel énorme, la caricature est aujourd'hui cantonnée à une poignée de journaux critiques et aux réseaux sociaux où elle ne génère plus de revenus. Journal inquiet d'Istanbul devrait bientôt être adapté en Allemagne ainsi que dans plusieurs autres pays. Et en Turquie ? Bien sûr, des éditeurs sont intéressés, mais leurs avocats ont signalé que ça pouvait être risqué, pour eux comme pour moi, balait tranquillement Ersin Karabulut. Je risque d'avoir un peu de mal à finir le deuxième tome si je suis en prison. Le dessinateur n'a cependant aucune intention de quitter Istanbul, pas plus qu'il n'a perdu l'espoir de lancer un nouveau magazine. Mais pour l'instant, son public est surtout étranger. Celui qui a grandi avec la BD franco-belge se réjouit que son travail trouve un écho en France, où il collabore depuis 2016 avec Fluide Glacial. Le rédacteur en chef de la revue, Clément Argouache, se dit fasciné par la capacité d'Ersin à adopter des styles graphiques extrêmement différents, dans les couleurs comme dans le trait, pour les adapter à son récit. Son univers poétique, effrayant, rappelle celui d'anciens de Fluide, à l'instar de Foerster et Jiménez. Il pousse l'absurde à l'extrême pour mieux parler de nos sociétés contemporaines. Car Ersin Karabulut ne parle pas que de la Turquie, loin de là. Chacun peut se retrouver dans ces histoires où l'individu, précaire et menacé, tente d'apprivoiser, sans s'y perdre, un monde étrange, hostile. Chacun entendra le cri d'alarme de ces fables dystopiques qui s'attardent sur les brebis galeuses, les dernières lueurs d'une humanité près de s'éteindre. Le héros du journal inquiet d'Istanbul, lui, puise dans ses rêves d'enfant la force de surmonter sa peur. Face à la tristesse, la bêtise et la lâcheté, Ersin Karabulut oppose la puissance du désir et de la créativité. C'était un article de Johan Beer dans la chronique du mois d'avril d'Amnesty.
Tu nous rappelles les titres de ce qui a été publié en France de ces œuvres.
Journal inquiet d'Istanbul chez Dargo en 2022 et avec Fluide Glacial, il y a eu Jusqu'ici tout allait bien en 2020 et en 2018 Compte ordinaire d'une société résignée chez Fluide Glacial.
Et cette petite chronique me fait penser à ce qu'on en adresse un petit salut amical à nos amis de la section turque d'Amnesty International, qui réussissent à faire quand même quelques actions pour les droits humains dans des conditions extrêmement difficiles, dans un pays où la liberté d'expression a été considérablement réduite depuis des années. Mais il continue quand même.
Oui, et lui, il reste en Turquie. C'est aussi quelque chose de remarquable, je veux dire. Ça donne envie de lire ses BD.
Et après ce portrait d'Ersine, on va continuer sur un dessin, mais en Russie. Donc, c'est pas la même. C'est dans l'actualité de la chronique. C'est écrit par Virginie Rawls, l'information qui est dévoilée. Dessine-moi un mouton. Elle a 12 ans quand, dans sa classe, la prof d'art plastique demande aux élèves de faire un dessin pour soutenir les soldats russes en Ukraine. Maria Moskaleva sort crayon de couleur, feutre et dessine une maman et sa fille sur lesquelles s'abattent des bombes, à côté d'un drapeau ukrainien. C'est que sa mère, la môme, ne l'a pas vraiment connue. Celle-ci est partie depuis longtemps. Depuis l'âge de 3 ans, Maria vit avec son père, à Lefremov, au cœur de la Russie. En découvrant son dessin, sa professeure ne se dit pas que c'est celui d'une enfant qui a peur pour sa mère, d'une gamine qui, effrayée par la guerre, aspire aux retrouvailles et à la paix. Non! Elle dénonce son élève à la directrice qui, elle-même, appelle la police. Il faut dire qu'en Russie, discréditer l'armée est un délit. D'ailleurs, les représailles ne tardent pas. Le père de Maria est arrêté, jugé le jour même. Quant à Maria, elle est placée dans un orphelinat. Ils seront libérés, mais leur domicile fera l'objet d'une perquisition musclée. Pour une publication sur les réseaux sociaux, le papa est à nouveau arrêté, battu. Cette fois, il risque la prison. Depuis le début du conflit, les enfants russes comme leurs aînés doivent être au garde à vous, suivre des cours d'éducation civique sur l'importance de la guerre contre l'Ukraine, apprendre à démonter des armes dès le primaire. Pas moins de 8 enfants ont été poursuivis pénalement en raison de leur supposée position anti-guerre. Il arrive qu'ils soient arrêtés en classe ou dans la cour de récréation, menacés d'être envoyés dans un orphelinat. Quant aux parents, placés sous la surveillance des services sociaux, ils risquent de perdre la garde de leur enfant. Les petits Russes n'ont plus qu'à marcher droit et surtout dessiner en rayant de leur imaginaire le bleu, le jaune, la colombe et le blanc de la liberté. Voilà.
Merci.
Ouais, ça fait froid dans le dos.
Ben oui.
Merci Mina pour toutes ces informations. On rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International France. N'hésitez pas à vous abonner, on le répète à chaque fois, mais on ne le dira jamais assez. Le formulaire d'abonnement est disponible sur le site amnesty.fr.
Et comme dirait Didier, ça m'a fait penser, quand tu as parlé de la Russie,
vas-y.
Que j'ai entendu il y a très peu de temps, sur un média, je ne vais plus citer lequel, les conditions d'éducation des jeunes Russes, où il y a une part de plus en plus importante de l'armée, même très très jeune. C'est-à-dire qu'au petit, on leur met dans leur tête, hein, c'est carrément du broche de crâne que bah, c'est le pays, c'est l'armée, c'est les armes et tout. Et ça continue jusqu'au collège et que, on va dire, allez, dans quelques années, tout bon citoyen russe sera complètement...
endoctriné.
Absolument. Et avec aucune connaissance, c'est toujours l'Occident et le monde extérieur qui est ce si grand danger qu'il faut combattre pour la pureté de la Russie et son devenir. Voilà.
Oui, ben c'est des méthodes très classiques des dictatures, effectivement, de réécrire l'histoire et de refaire l'éducation des enfants avec une histoire réécrite et qui est fausse.
Et quand on voit ce que vient de nous dire Mina, c'est-à-dire que les parents ne pourront absolument pas s'opposer, quoi. C'est tellement dangereux pour eux.
Mais une émission d'Amnesty, ce ne sera pas une émission vraiment complète s'il n'y avait pas une bonne nouvelle. Et je crois que tu avais une bonne nouvelle, Edith, comme on a encore un petit peu de temps. Une bonne nouvelle à nous donner, je crois, ça concernait l'Algérie, si j'ai bonne mémoire.
Oui, il y avait l'Algérie, voilà, parce que j'avais aussi on voudrait ça la prochaine fois peut-être, sur la situation des médias en Algérie, ça, c'est pas terrible. Mais là, c'est une bonne nouvelle. Amira Bouraoui retrouve son fils, journaliste et figure de l'Irak algérien, le mouvement de contestation du pouvoir. Amira Bouraoui a pu gagner la France début février à partir de la Tunisie. Animatrice d'une émission politique sur Radio M, Amira faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire en Algérie. Cette franco-algérienne de 46 ans avait tenté de quitter le pays à plusieurs reprises ces derniers mois pour rendre visite à son fils en France. Porte-parole du mouvement Barakat, ça suffit, elle avait dénoncé la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à un quatrième mandat en 2014, s'était retrouvé en prison de juin à juillet 2020, de nouveau condamné en mai 2021 pour offense à l'islam et pour atteinte à la personnalité du président de la République, Amira Bouraoui risquait à tout moment la détention. Elle a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne soit pas renvoyée une nouvelle fois derrière les barreaux, citant les ONG, dont Amnesty. La réaction des autorités ne s'est pas fait attendre. Pour protester contre l'accueil de l'opposante en France depuis début février, Alger ne délivre plus de laissez-passer consulaires.
Et je vais même vous lire une autre bonne nouvelle, parce que dans le rapport d'Amnesty, le rapport de 2023, il y a aussi tout un chapitre qu'on n'a pas beaucoup évoqué, parce qu'on n'a pas le temps de tout dire, mais qui concerne effectivement la régression pour les droits des femmes, qui est aussi une des priorités qui figure dans ce rapport. Donc d'agir effectivement contre cette répression généralisée dans beaucoup de pays contre les droits fondamentaux des femmes. Et là, c'est une bonne nouvelle pour, ça se passe au Salvador, c'est une ONG féministe qui a été distinguée. Le prix Simone Veil, institué en 2019, a été remis le 8 mars à la présidente du collectif citoyen pour la dépénalisation de l'avortement au Salvador, Monera Herrera. Ce mouvement lutte pour que l'interruption volontaire de grossesse, totalement interdite dans ce petit pays centra-américain, puisse être accessible aux femmes. Voilà. Donc c'est une façon effectivement de les soutenir que la remise de ce prix Simone Veil. Voilà. Donc on va s'acheminer tout doucement au terme de notre émission.
Notre prochain rendez-vous.
Prochain rendez-vous radiophonique, c'est le mardi 25 avril à 19h sur l'antenne de Principe Actif. Donc 19h à 20h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et puis on vous rappelle qu'on a des dizaines et des dizaines d'émissions qui sont sur le site de la radio principeactif.net dans la rubrique Amnesty International. Donc n'hésitez pas à les réécouter, au moins les dernières, ou à vous informer par rapport à ces émissions. On vous rappelle aussi qu'on a nos émissions Fréquence Droits Humains. Voilà, on continue aussi à les faire, probablement sous la base d'une par trimestre. Donc tous ces podcasts sont disponibles. Et puis, on vous redonne nos coordonnées, parce que si vous avez envie d'agir et de lutter avec nous...
Rejoignez-nous.
La porte est grande ouverte. Hein, la porte, entre guillemets, enfin la porte symbolique du groupe est grande ouverte. N'hésitez pas. Donc, pour nous contacter, vous nous envoyez vos coordonnées, un petit mail de deux lignes à evreux@amnestyfrance.fr. evreux@amnestyfrance.fr. Amnesty, c'est avec un Y à la fin, et Amnesty France tout attaché. Voilà. On va céder la place au laboratoire qui vient de... Manu vient de rentrer, effectivement, pour animer son émission qui va prendre la suite. Et donc, on vous dit rendez-vous le 25 avril et on vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.